Grand Angle.
Merci de vous joindre à nous sur Radio Orient. Avec vous, Nadia Bencher pour le Grand Angle Hebdo. Au sommaire, cette semaine, violence après la victoire du PSG, la sécurité remise en question, répression suffisante ou priorité à la prévention des débordements, le décryptage de Reda Didi, délégué général de l'association Graines de France. SMIC en hausse de 2,4% depuis le 1er juin, un coup de pouce certes mais sous tension, c'est aussi un révélateur des fragilités salariales en France, nous dira l'économiste Mathieu Plane. L'Union européenne valide des centres de renvoi hors de ses frontières, un projet controversé sur fond de débat sur les droits humains. Vous entendrez la députée européenne écologiste Mélissa Camara. Dans ce numéro, le Maroc dépasse l'Afrique du Sud en industrialisation, un tournant confirmé par la Banque africaine de développement. L'économiste Abdelmalek Alaoui nous dira ce que traduit cette avancée pour le royaume chérifien. Enfin, le 43e marché de la poésie, un rendez-vous incontournable pour les amoureux des mots auxquels prend part la chanteuse franco-marocaine Safo. Après les violences survenues à la suite de la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, la question de la sécurité revient au premier plan. Face à des débordements désormais récurrents lors des grands événements sportifs, la réponse strictement policière suffit-elle? Ne faut-il pas renforcer la prévention, l'encadrement et l'accompagnement des rassemblements en amont? Élément d'analyse avec Reda Didi, délégué général de l'association Graines de France.
On ne pouvait pas avoir un dispositif plus important que celui qu'on a eu là. 8000 personnes sur le terrain. Sur le terrain en Ile-de-France, 22 000 au niveau du territoire. Hein. Il faut se rappeler de ça. C'est ce qu'on avait déployé sur les pires week-ends qu'on a pu avoir avec le mouvement des Gilets jaunes. Vous voyez, donc c'est un gros dispositif, il faut s'en rendre compte. Donc je pense qu'on a atteint le plafond de verre de la réponse répressive. On en reste un pays démocratique, on ne peut pas être dans un système totalitaire. Ça, c'est un premier point. Le second que vous avez évoqué, c'est-à-dire accompagner un peu mieux, travailler un peu mieux, peut-être ouvrir un peu plus de fan zone, ouvrir un peu plus d'espace où les gens peuvent se réunir pour éviter cet attroupement et ces foules, et notamment avant et après le match. Donc avoir des espaces où les gens peuvent venir faire la fête, être heureux ensemble, communier comme ils ont besoin de le faire de façon organisée. Et je rajouterai un troisième point, c'est que je pense qu'en amont, il faut travailler un peu plus les questions de prévention et d'éducation. Et c'est-à-dire que peut-être que là, il y a quelques gains. Il faut travailler sur l'éducation parce que si certains pensent que l'éducation coûte cher, comme un grand président le disait, eh ben il faut essayer l'ignorance. Et l'éducation et la prévention est quand même peut apparaître aujourd'hui comme le parent pauvre de notre pays parce qu'on a eu beaucoup de coupes budgétaires dans ce domaine-là et qu'il faut travailler sur la prévention pour éviter que les jeunes à l'âge de 17 ans, entre 17 et 25 ou 30 ans, ne pensent que faire la fête, c'est aller casser et leur donner une autre façon que de traduire ça. Je terminerai là-dessus. Le jeune, sa volonté et son besoin de prendre des risques est tout à fait normal. Voilà. Les encadrants, les dirigeants, les adultes, les accompagnants doivent permettre à ces jeunes-là de prendre des risques dans un cadre qu'ils auront eux-mêmes identifié, qu'ils auront eux-mêmes créé et qu'ils auront eux-mêmes sécurisé.
C'était Reda Didi, délégué général de l'association Graines de France. Le SMIC a été revalorisé de 2,4% ce lundi 1er juin. Une augmentation automatique qui intervient dans un climat économique toujours incertain, marqué par un regain d'inflation et des préoccupations persistantes autour du pouvoir d'achat. Cette revalorisation met-elle en lumière un problème plus structurel de progression salariale dans l'économie française? Nous avons posé la question à Mathieu Plane, économiste et directeur adjoint du département analyse et prévision vision à l'OFCE.
Il y a un problème qui est, à mon avis, assez évident. C'est que, donc, d'abord, que le SMIC soit indexé, c'est plutôt une bonne chose, en réalité, parce que ça permet de protéger les salariés les plus modestes. Donc, c'est quand même important de garantir un pouvoir d'achat, surtout quand on dit qu'il faut faire attention et valoriser le travail. Bon, bah voilà. Donc, ça, c'est quand même un point essentiel. En revanche, qu'on voit, c'est que au cours du temps, on a plutôt une compression des grilles de salaire. C'est-à-dire que, au fond, beaucoup de salariés se retrouvent entre le SMIC et 1,5 SMIC. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que les progressions de carrière sont assez limitées. Et donc, la question aujourd'hui, à mon avis, hein, pour l'économie française, elle n'est pas seulement à savoir est-ce qu'il faut revaloriser le SMIC. Quand on se compare par rapport aux autres pays, le salaire minimum français, par rapport au niveau de vie, est plutôt correct. Et ça, il faut quand même le rappeler. Par contre, ce qui n'est pas correct, c'est que le salaire médian, donc celui qui partage la population en deux, est plus bas que dans les autres pays. C'est-à-dire que la progression de carrière entre le SMIC et le salaire médian est relativement faible. Donc ça veut dire que, quelque part, les gens restent trop longtemps proches du SMIC ou avec des faibles progressions de carrière. Et donc ça pose ce problème du pouvoir d'achat, de comment on valorise l'expérience et la qualification. Ça pose le problème de la montée en gamme, c'est-à-dire que forcément, du coup, il y a aussi peut-être moins, de progression, y compris dans la valeur ajoutée qu'on génère, etc., y compris dans les questions industrielles. C'est comment on fait pour mieux valoriser le travail et comment on monte en gamme aussi sur un certain nombre de secteurs. Donc voilà, ça pose quand même un certain nombre de questions liées à notre système, en fait, ce qu'on appelle socio-fiscal. C'est à la fois la fiscalité très particulière sur le coût du travail en France et ces mécanismes d'indexation du SMIC et pas des autres salaires.
Mathieu Plane, économiste et directeur adjoint du département analyse et prévision à l'OFCE. Lundi, l'Union européenne a validé le principe de la création de centres de renvoi de migrants situés hors de son territoire. Au Parlement européen, la droite et l'extrême droite saluent cette décision qui prévoit l'installation de ces hubs de retour dans des pays tiers. Un vote définitif doit encore intervenir lors de la prochaine session plénière. La députée européenne écologiste Mélissa Camara, elle, dénonce un recul des droits humains pour les personnes concernés par ces expulsions. On l'écoute.
Ce que prévoit l'Union européenne, c'est un texte très dur et qui va permettre des reculs fondamentaux sur les droits des personnes exilées. Et en fait, on a eu une proposition de la Commission qui va dans le sens des volontés de l'extrême droite. C'est-à-dire que, comme vous l'avez indiqué, on va avoir des centres de retour à l'extérieur des frontières, un peu comme le modèle de Giorgia Meloni en Albanie. On va avoir des retours forcés qui vont devenir la norme. On va avoir toujours plus de détentions, parfois même dans des prisons, avec des prisonniers de droit commun, de personnes exilées. Et on parle aussi d'enfants qui vont être dans des prisons, qui vont être dans ces centres de retour. On va avoir des rétentions qui vont être plus longues. On va pouvoir aller jusqu'à 30 mois. Enfin voilà, on a tout un arsenal qui va dans le sens de ce que souhaitait l'extrême droite. Et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que le texte qui a été négocié avec le Conseil et la Commission avant-hier est un texte qui a été travaillé par François-Xavier Bellamy avec l'ensemble des groupes d'extrême droite. Il faut savoir que François-Xavier Bellamy a proposé un contre-rapport qu'il a travaillé pendant des mois avec les groupes d'extrême droite. Et donc on voit leurs obsessions concernant les mineurs non accompagnés, on voit leurs obsessions concernant toujours plus de détention, des méthodes qui rappellent celles de l'ICE aux États-Unis. C'est-à-dire que, par exemple, dans le texte final, on va avoir ce qu'on appelle les visites domiciliaires, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller traquer les gens chez eux, jusqu'à chez eux, on va pouvoir fouiller leurs affaires, un peu comme les images qu'on a pu voir ces derniers mois avec ICE. On a tous été choqués par les images de ces enfants qui étaient arrêtés. On a tous été choqués par cette violence de la politique migratoire de Donald Trump. C'est ce qu'ils veulent aujourd'hui en Europe.
La députée européenne écologiste Mélissa Camara. Longtemps considérée comme la première puissance industrielle du continent, l'Afrique du Sud a été dépassée cette année par le Maroc dans le classement de la Banque africaine de développement. Une évolution qui traduit avant tout la diversification de l'économie marocaine et la montée en puissance de nouveaux secteurs industriels. Écoutez l'analyse de l'économiste Abdelmalek Alaoui.
Alors d'abord, il faut rappeler ce qu'est le classement de la Banque africaine de développement. C'est un indice composite. Hein. Il ne parle pas de volume, il parle de votre niveau d'industrialisation. Il est évident que l'Afrique du Sud, elle a des capacités plus importantes parce qu'elle a notamment une industrie qui est issue des mines et des dérivés des mines. L'Égypte a un marché intérieur beaucoup plus grand que le Maroc. Donc en réalité, c'est comment est-ce que intrinsèquement le pays est de plus en plus développé, comment est-ce qu'il développe tous les secteurs industriels. Dans le cas du Maroc face à l'Afrique du Sud, c'est à la fois la progression importante du Maroc avec les deux constructeurs automobiles et les 1000 équipementiers automobiles qui sont derrière, mais également l'écosystème aéronautique, très important. Il n'y a pas un seul avion dans le monde qui vole sans une pièce marocaine. Et puis le dernier pari en date, qui est celui de la mobilité électrique et de la batterie, couplé à ces infrastructures de premier rang, dont le port de Tanger Méditerranée, qui est aujourd'hui le premier port d'Afrique avec 11 millions de conteneurs par an.
Abdelmalek Alaoui, spécialiste de l'intelligence économique. À l'occasion du 43e marché de la poésie, place Saint-Sulpice à Paris, la poésie est à l'honneur au cœur de la capitale. Du 3 au 7 juin, près de 400 éditeurs et revues ainsi que plus de 150 poétesses et poètes participent à ce rendez-vous devenu incontournable pour celles et ceux qui écrivent, lisent et font vivre la poésie. Cette édition se décline à travers 34 événements en périphérie. Alors que la poésie suscite un intérêt renouvelé, toutes générations confondues, la poétesse et chanteuse franco-marocaine Sappho nous invite à découvrir des voix contemporaines. On l'écoute.
Je trouve que c'est une manifestation indispensable, parce que il y en a si peu autour de la poésie, je veux dire. C'est un rendez-vous merveilleux avec tous les éditeurs qui sont là, avec des auteurs qui traînent. C'est un marché. On rencontre des poètes, il y a de la musique, on écoute des poètes aussi. Moi, je trouve très important la lecture à voix haute de la poésie. Et c'est très important. Il y a une espèce de chair vocale de la poésie qui est encore une autre lecture, une proposition de lecture, disons. Ce qui se passe, moi, je croise leur poésie parce que, bon, par exemple, je suis marraine d'un festival de poésie des Voix de la Méditerranée à 7 tous les ans. Ce sont tous les poètes du parcours méditerranéen qui viennent et qui proposent dans tous les endroits de la ville des poèmes. Et tout. C'est merveilleux et du coup on croise de la poésie. Et l'art c'est indispensable. Quand vous voyez l'horreur du monde et on ne sait plus où donner la tête et où est la folie, où est la fureur, eh bien il y a quand même l'art qui permet de se dire que ça vaut la peine quand même d'exister, de subsister. Quoi. Il y a toujours des pépites et c'est à nous de les trouver. Et c'est ça qui est beau dans cette affaire. C'est-à-dire que c'est vous qui allez picorer, qui allez chercher et qui allez trouver, en tout cas, le poète qui vous parle. Parce que c'est des rencontres aussi. Aimer un poète, c'est rencontrer quelqu'un. Moi, par exemple, il y a une poétesse gréco-tunisienne, Marianne Cazaras, qui me touche beaucoup. Alors, c'est parce que c'est un mode qui me touche, il y a un côté antique quasiment dans sa façon de faire et en même temps très moderne. J'aime qui aussi ça, quoi. C'est mon côté oriental.
C'était l'artiste franco-marocaine Sappho. C'est la fin de ce grand angle hebdo. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité et excellente suite de programme sur Radio Orient.
C'était Grand Angle.